Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Alors, une nouvelle de dernière heure, les pharmaciens vont vacciner dès le 15 mars. C'est une excellente nouvelle. Les pharmaciens nous vaccinent contre l'influenza, nous vaccinent contre le tétanos. Ils sont capables de vacciner. Donc là, maintenant, on dit, enfin, on va utiliser les pharmaciens. Bravo, chapeau. Alors, on est à la maison, c'est la pandémie, les restaurants sont fermés, on utilise beaucoup les services de livraison, alors comme DoorDash, comme Uber Eats, des services que qu'aime beaucoup Gilles Proulx parce que c'est très francophone, hein, DoorDash et Uber Eats. Mais pourquoi pas utiliser un service fait à Montréal par des gens de Montréal? Il y a un nouveau service de livraison comme ça de bouffe qui s'appelle restoloco.com, L-O-C-O.com. On va parler à Axel L'Espérance, fondateur de restoloco.com. Bonjour, Monsieur L'Espérance.
Bonjour, comment allez-vous?
Ben, très bien, mais premièrement, bravo, c'est pas un nom anglais, déjà.
Ben, merci, ça sonne espagnol, par exemple.
Ben, mais oui, mais c'est correct. Restoloco,
c'est ça, c'est un jeu de mots avec local.
Là. Exactement, puis ça se dit bien en anglais, ça se dit bien dans toutes les langues, avec tous les accents. Est-ce que, là, on peut l'utiliser, Restoloco, là?
Ah oui, tout à fait. Depuis plusieurs mois déjà, plus d'une centaine de restaurants qui sont partenaires à la plateforme, disponibles dans le Grand Montréal, à Québec, au Saguenay. Livraison coûte seulement 2,95 d'ailleurs pour les gens. Fait qu'en plus d'encourager local, vous payez moins cher. C'est disponible, c'est prêt, on est là.
Parce que c'est un des problèmes avec des services là, comme DoorDash, comme Uber Eats, c'est qu'il y a des gens qui se plaignent qu'ils sont très gourmands. Il y a des restaurants qui se sont plaints en disant, vous nous demandez là, de payer très cher pour utiliser vos services. Vous, est-ce que c'est moins dispendieux pour les restaurants?
Oui, définitivement, il y a de nombreux avantages, mais le prix, c'en est certainement un. À cause de notre modèle d'affaires, puis à cause qu'on a développé un écosystème où est-ce que on travaille avec déjà des entreprises de taxi puis des livreurs locaux, on arrive à obtenir des prix vraiment avantageux, des tarifs beaucoup moins chers pour la livraison pour les restaurateurs. Donc, pour un restaurateur, là, vous donnez une idée, ça peut coûter entre 13 et 18% de frais pour faire livrer un repas, comparativement à des 25 à 30% chez nos compétiteurs.
25-30%, là, c'est vraiment énorme. Est-ce que vous avez tous les services, c'est-à-dire que, bon, moi, j'utilise des fois DoorDash, Uber Eats, mais là, je vais utiliser Restoloco maintenant. Est-ce que vous avez, tu sais, on peut savoir exactement où est le taux de livraison? Raison, ah oui. Qui s'approche là, comme lorsqu'on commande un Uber.
Tout à fait. Quand vous commandez sur Restoloco, vous recevez une confirmation. Vous allez recevoir un lien également qui vous permet de suivre votre véhicule, votre chauffeur qui vient vous livrer la nourriture. À Montréal, on travaille beaucoup avec un partenaire qui s'appelle la coopérative Eva, qui sont un service de taxi, de transport, un compétiteur à Uber. Et eux, leur application, d'ailleurs, permet un tracking, comme ça, là, excusez mon français, oui. Là, des voitures. Donc, on a des partenaires technologiques très poussés, puis on offre une expérience client bien similaire à ce que vous aimez chez nos concurrents, chez les applications populaires.
Mais développer un service comme ça, j'imagine, mais premièrement, il faut vous contacter justement les taxis, il faut vous contacter les restos, faire des contacts avec tout ça. C'est long et est-ce que c'est beaucoup d'investissement?
Oui, c'est long, c'est beaucoup d'investissement, définitivement. Nous, on travaillait déjà sur le projet depuis quelques temps, donc ça nous a permis, évidemment, la pandémie, en fait, qu'on a accéléré la chose, là. Mais c'est certain que c'est beaucoup d'efforts. Et puis, heureusement, on compte sur des partenaires. On est toujours en recherche de partenaires. Vous l'avez dit, c'est beaucoup d'investissement, donc.
Est-ce que vous faites affaire, vous avez vos propres chauffeurs à vous?
On n'a pas nos propres chauffeurs à nous. C'est-à-dire que c'est dans notre modèle d'affaires. Tout notre transport est sous-traité. Donc, c'est vraiment ce qui nous permet d'être super agile, puis d'avoir un modèle d'affaires très agile et de sauver les frais. Donc, si par exemple, nous, on déploie dans une nouvelle ville, dans une nouvelle région, ben, on va aller voir, on va prendre contact avec une compagnie de taxi locale, puis on va simplement y offrir l'opportunité de de faire la livraison de plats resto locaux. Ce qui fait qu'au lieu d'arriver avec nos propres chauffeurs puis de concurrencer une entreprise qui est peut-être déjà localement implantée, ben on va travailler avec des entreprises locales. Donc tout le monde est gagnant. C'est ce qui fait que on peut rapidement déployer notre solution dans des nouveaux endroits là. En quelques semaines, on est disponible.
Donc, c'est combien de mois de travail pour mettre sur pied un service comme ça?
Ah ben nous, c'est certain qu'on parle de 6 mois, 1 an avant la mise en ligne là, tu sais, de développement puis d'effort puis de commercialisation. Puis après ça, ben ça dépend toujours du budget, ça dépend des équipes définitivement, mais c'est beaucoup de travail là. Ça, y a pas à dire, puis y a encore beaucoup de travail à faire là. Le gros est devant nous définitivement.
Mais quand vous parlez de votre projet à vos amis, à des proches, il y a des gens, j'imagine, qui vous ont dit, ben ça existe déjà, il y a déjà Uber Eats, il y a déjà DoorDash, puis tout ça. Pourquoi un autre service comme ça?
Ouais, vous allez dire on est un peu fou, hein.
Oui.
mais bon, c'est parce que la solution actuelle est pas viable pour les restaurants. Les solutions qui existent, Uber, DoorDash, Skip the Dish. Moi, j'étais en affaires là depuis quelques temps, puis je voyais la situation auprès des restaurateurs, puis les applications qui existent, les applications populaires, c'est d'abord et avant tout des applications de livraison, puis c'est des plans B. Ça a été développé pour être des plans B, pour offrir une solution alternative aux restaurants qui fonctionnent puis qui veulent offrir la livraison. Mais ça n'a jamais été conçu ou pensé pour être un plan A. Puis là, avec la pandémie, ben c'est devenu un plan A pour bien des restaurants. Les restaurants dépendent de ces applications-là. Mais il y a plein de choses qui font que ça marche pas. Comme par exemple, vous avez parlé des frais. Les frais sont beaucoup trop élevés. C'est pas viable à long terme pour un restaurant. Le fait que quand vous commandez chez Uber Eats, toute l'information sur le client, le data, ça appartient à Uber Eats. Faut pas se le cacher. Uber Eats, c'est pas une application de livraison. C'est un restaurant virtuel. Quand vous faites une transaction, vous transigez avec Uber Eats, vous payez sur Uber Eats. Si vous avez un problème, vous appelez Uber Eats, vous faites rembourser par Uber Eats. Le restaurant ne saura jamais qui vous êtes. Il n'aura jamais l'information sur son client. Il ne pourra jamais gérer la relation. Le restaurant ne devient qu'un simple fournisseur de nourriture. Uber Eats, c'est comme un... C'est ça, c'est un restaurant virtuel. Alors que ça, c'est un problème. Tu sais, je veux dire, la plus grande valeur des restaurants, leur plus gros actif, c'est leur clientèle. Tu sais, je veux dire, si tu leur enlèves leurs clients, un restaurant... Donc, restos locaux, on fonctionne pas comme ça. Lorsque vous commandez à travers restos locaux, vous êtes mis en relation. On est un entremetteur plutôt qu'un intermédiaire. Donc, vous payez directement au restaurant. Le restaurant sait qui vous êtes, peut vous contacter s'il y a un problème avec la commande.
Ah oui, OK.
C'est vraiment une mise en relation.
Je comprends, là. C'est au restaurant que je paie, c'est pas directement au service. Et vous savez, vous avez vu certainement les reportages là où il y a des faux restaurants, c'est-à-dire des gens qui font de la bouffe à la maison, oui. C'est pas inspecté, rien, ils font ça là, dans leur cuisine, puis ils utilisent des services comme Uber Eats et tout ça. Et nous autres, quand on commande, on pense qu'on commande notre poutine d'un restaurant qui est vraiment supervisé, puis finalement, c'est Joe Blow qui fait ça dans sa cuisine. Est-ce que vous faites attention aussi? Bien, étant donné que vous faites affaire avec des restaurants, on vous assurez que c'est des vrais restos, là?
Oui, bien, définitivement. Je vous dirais pas le contraire, là. Tu sais, je pense que c'est un phénomène qui est apparu, puis qu'on s'est tous fait un peu prendre de cours par rapport à ça. Tu sais, nous, on va demander des informations au restaurant, on va s'assurer qu'il y a opinion sur vous, on va demander une copie du permis du MAPAC. Définitivement, comme tous les joueurs, il va falloir renforcer nos inspections puis les choses, puis tu sais, les conditions d'entrée, là. Donc, définitivement. Puis tu sais, je vous cacherai pas que quand est arrivée cette nouvelle-là, on a fait une revue diligente de notre situation puis de nos restaurants actuels. Et puis que
pour s'assurer, là, c'est ça, parce qu'il y avait un gars, là, il y avait toute sa famille qui venait du Pakistan, qui vivait avec lui, puis faisait à bouffe son poil, puis il vendait ça, là, c'est pas. Et vous, j'imagine actuellement, vous êtes en train d'allumer des lampions chez vous, puis vous montez les marches de l'oratoire à genoux pour pas que la pandémie arrête. Parce que c'est votre meilleur ami, la pandémie. Est-ce que vous avez peur de l'après-pandémie? Parce que ça, c'est sûr, on utilise ces services de livraison-là, mais après ça, on va aller au resto.
Ah oui, je suis content que vous posiez la question. Parce que c'est vrai, tu sais. Puis comme j'ai dit tantôt, les autres applications populaires, c'est des applications de livraison. Nous, on est une application pour commander au restaurant. Sur Resto Locaux, vous pouvez faire livrer, mais vous pouvez commander pour emporter, puis vous pouvez également réserver une table au restaurant. Déjà d'emblée, là, 40% de nos commandes actuelles, c'est des commandes pour emporter au restaurant. Donc, vous pouvez vraiment vous servir de l'application Resto Locaux pour trouver un restaurant et puis pour chercher un endroit où ce que vous voulez manger, de la manière que vous voulez manger. On offre un service de livraison grâce à nos partenaires, mais c'est pas notre raison d'être principale. Donc, évidemment, comme tout le monde, on espère que la pandémie finisse très bientôt, puis Resto Locaux va continuer de vivre après ça sans problème. Et puis, tu sais, je pense qu'il y a quand même des paradigmes qui ont changé, puis qui les gens leur manière de consommer là, ça va prendre du temps, je pense, avant que ça redevienne.
Moi, je pense aussi. Je pense qu'on a pris des habitudes là, et je pense que ça va rester après la pandémie. On a découvert des restaurants par ces services de livraison là et tout ça. Je pense que, en tout cas, vous croisez les doigts. Vous voulez pas être les prochains clubs vidéo, là, c'est-à-dire quand le streaming est arrivé, tout est tombé là. Moi, je vais essayer ça. Pourquoi pas encourager une entreprise locale, une entreprise de Montréal, plutôt qu'une entreprise qui est complètement désincarnée. Donc, restolocaux.com. Puis, bonne chance, M. Axel L'Espérance.
Merci, M. Martineau. Je vous souhaite une belle journée. Merci à tous.
Merci. Bonne journée.